Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. On n'a pas oublié qu'on n'est pas arrivé tout à fait à la fin de la première épître de Pierre. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas regardé, mais on était au cinquième chapitre de cette épître vers la fin. Et nous allons ouvrir donc cette épître, 1 Pierre chapitre 5. Et vous vous souvenez que l'apôtre Pierre écrit à des croyants qui sont, on le lit au début, dispersés dans l'Asie, la Cappadoce, la Bithynie, le Pont, etc. Et il veut les encourager. Il veut les encourager à tenir ferme dans la foi. À la fin, il dit que la grâce de Dieu à laquelle ils sont attachés et vraiment celle-là à laquelle il faut rester. Au verset 12, il dit « La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. » Au verset 12 du chapitre 5. Parce qu'il y avait des découragements, il y avait des souffrances, il y avait de la persécution. Et vous vous rappelez qu'il a présenté l'évangile, la beauté de l'évangile à ces chrétiens. Et puis il les a encouragés à tenir ferme, à souffrir et à accepter même la souffrance, si telle est la volonté de Dieu, à même faire le bien au sein de la souffrance. Il a exhorté à la sainteté, il a exhorté à rejeter tous ceux qui dans les relations pouvaient être mauvais. Chapitre 2, il dit « Rejetant donc toute méchanceté, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. » Vous voyez, quand parfois les difficultés sont là, et même quand elles ne sont pas là, eh bien, il peut y avoir dans les relations, dans l'Église, dans les frères et sœurs, eh bien, de la ruse, de la méchanceté, de la dissimulation, de l'envie et de la médisance. Et puis, il exhorte aussi à être soumis aux autorités, dans toutes les relations d'autorité que Dieu a établies, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le milieu social, dans le travail. Il exhorte à la sainteté. Il exhorte à avoir une bonne conscience. Il dit, afin que là même où les gens vous calomnient, ils puissent remarquer vos bonnes œuvres et qu'ils puissent aussi glorifier Dieu. À la fin du chapitre 4, il dit que le temps est proche, que le Seigneur va revenir et que, voilà, il faut être sobre, comme on vient de l'entendre ici, il faut être sobre pour vaquer à la prière. Il exhorte à l'hospitalité, il exhorte à mettre les dons que Dieu nous a donnés, leur a donnés au service les uns des autres. Il leur demande d'annoncer les oracles de Dieu, de faire tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, au chapitre 5, il exhorte même les anciens de l'Église à œuvrer comme ils doivent œuvrer, à être des modèles du troupeau, à ne pas chercher à dominer sur le troupeau, mais à enseigner, à faire paître le troupeau comme Dieu le veut, avec dévouement, sans chercher à gagner, voir le ministère comme un moyen de gagner de l'argent, mais comme se dévouant au service les uns des autres. Il exhorte aussi les croyants à vivre dans l'humilité et la soumission. Il dit même aux jeunes, soyez soumis aux anciens. Et il dit que l'on doit tous s'humilier sous la puissante main de Dieu en se déchargeant sur lui de tous nos soucis. Puis il arrive au verset 8 et c'est ça que je voudrais considérer ce matin. Le verset 8 et le verset 9, il dit, et soyez sobres. Donc ça rejoint le dernier verset que le frère a lu tout à l'heure. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà, que le Seigneur nous guide dans cela. Mais ce que l'on peut voir ici, c'est que quand on souffre, hein, on peut parfois se tromper d'adversaire. Et ici, l'apôtre Pierre encourage ces chrétiens qui souffrent. Il les encourage à avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Mais il dit une chose, il dit attention, soyez vigilants parce qu'il y a un combat. Il y a un ennemi, il y a un adversaire qui est là et qui cherche à vous faire du tort. Parfois, on peut considérer la vie chrétienne comme un long fleuve tranquille. Hein. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Et un peu comme on a vécu en Europe depuis 70 ans, hein. Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous avez entendu peut-être beaucoup de commentateurs dire ou des gens dire « on avait cru à la paix éternelle, hein. On a désarmé, on a fait, voilà, on a, parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et on est devenu intelligent, on est devenu éduqué, il n'y aura plus de guerre. Il n'y a pas de danger, alors pourquoi est-ce qu'il faut s'armer? Parfois en tant que chrétien on peut vivre comme cela, il n'y a pas de danger, je suis au Seigneur, que peut me faire le diable? Il n'y a aucun souci, aucun danger. Et Pierre dit ici, soyez sobre, veillez. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il donne une triple, un triple impératif ici. Il dit, soyez sobre. Il dit, veillez. Il dit, résistez. Il donne une raison pour laquelle il faut cela. Il dit, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et puis il donne un encouragement et il dit résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances aussi sont imposées à vos frères partout dans le monde. Et je voudrais commencer avec premièrement cette compréhension que l'on doit avoir. Il dit voilà, il faut comprendre des réalités concernant le diable. Il faut comprendre certaines réalités concernant le diable. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Quand on parle du diable, parfois, on tombe souvent dans deux travers. Soit on minimise son importance, sa puissance. Oh, le diable, oh, ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent ça. Bon, c'est... Puis il y a des chrétiens qui disent, moi, je suis au Seigneur, qu'est-ce que le diable, il ne peut rien me faire, il ne peut pas me toucher, il ne peut rien me faire. Puis voilà, on est un petit peu, voilà, on évacue l'affaire vite fait. Hein. Et puis, on peut, l'autre travers, c'est qu'on tombe dans une espèce de fascination hein, pour le diable. On le voit partout. Il est partout. Hein. Et y a même des endroits où on développe des campagnes pour reconquérir des territoires. Hein, qui sont occupés par le diable, on va mener la guerre, on va chasser les démons, et voilà, et on va être dans une espèce d'attitude où on le poursuit, on le traque, où parfois on est même appelé à l'affronter quasi physiquement, d'accord? Et c'est intéressant de voir comment l'Écriture parle du diable. On n'aura pas le temps de voir tout ce que l'Écriture dit du diable ici, mais au moins en essayant de rester au plus proche de notre texte ici, à ce que Pierre dit. La première chose qu'il souligne, il dit que les croyants doivent être conscients de la réalité du diable et de la réalité de son activité. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, vous devez savoir ça. D'accord ? Il dit pas de courir après, il dit, premièrement, sachez cela. Il dit, vous avez un adversaire. Et le mot qui est traduit par adversaire, hein, c'est un opposant. D'accord ? C'est un opposant qu'on a dans un procès, par exemple. Hein. Donc le mot est utilisé dans l'évangile ailleurs hein, pour parler. Quand la femme, vous rappelez la femme qui allait voir le juge unique et puis qui dit « Rends-moi justice de ma partie adverse ». C'est le même mot. C'est le même mot ici. La partie adverse, c'est l'adversaire. Celui qui est contre moi, ici. Et Pierre dit « Vous avez un adversaire, c'est votre adversaire ». Personnellement, il ne dit pas c'est simplement l'adversaire de Dieu, il ne dit pas c'est l'adversaire de la communauté de croyants, il dit individuellement c'est votre adversaire. C'est votre adversaire à vous, c'est votre adversaire à vous, c'est votre adversaire à vous, c'est l'adversaire à moi. Il dit c'est le vôtre. L'adversaire, ce n'est pas l'autre croyant dans la salle, ce n'est pas le frère, c'est le diable. Il appelle l'adversaire et aussi il appelle le le diable, qui veut dire le calomniateur, l'accusateur. Hein, vous vous rappelez dans Apocalypse, il est dit, voilà, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Il est celui qui accuse. Hein? Et dans Zacharie chapitre 3, regardez Zacharie chapitre 3, hein, on voit Zacharie chapitre 3. Et il y a Josué, le souverain sacrificateur, au verset 1, il parle d'une vision qu'il a, que Dieu lui donne, et il me fit voir Josué, le souverain. Pardon, c'est Zacharie qui parle, il a une vision de Josué. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite, pour quoi faire? Pour l'accuser. Il est celui qui accuse les croyants devant Dieu. Il l'a fait avec Job. Vous vous rappelez, lorsque la Bible dit que les fils... Job, on peut regarder Job, ça vaut mieux le lire, hein, rapidement. Job, au chapitre 1, Job, chapitre 1, il est dit au verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Puis Satan répond, « De parcourir toute la terre et de s'y promener. » Puis Dieu lui parle de Job. Et puis qu'est-ce que Satan fait ? Il va accuser Job. Il va dire, « Oh ben, il est comme il est parce que tu lui accordes toutes choses. Mais si tu lui enlèves, tu vas voir. Hein? Il n'est pas si intègre que ça. » Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre le décrit comme l'accusateur, comme l'opposant, comme le calomniateur. Donc votre adversaire, dit-il, le diable rôde comme un lion rugissant. Et le chrétien doit, même l'homme du monde, doit intégrer que le diable est, c'est sa nature. Hein. Il est l'adversaire, l'opposant, le calomniateur. Ailleurs, Jésus lui-même dit qu'il est aussi menteur. Et même il dit qu'il est le père du mensonge. C'est un menteur professionnel. Il n'y a dans tout l'univers aucun être qui puisse mentir comme lui. Parfois, on voit quelqu'un, on dit, ouais, lui, c'est un menteur invétéré. Jamais vu quelqu'un mentir comme cela. Ben, il est bien en dessous de ce que le diable est capable de faire. C'est Jésus qui dit cela. Il dit, il est menteur. Et dans Jean chapitre 8, verset 44, il le dit, et il est même le père du mensonge. Il dit, quand il parle de son propre fond, il n'a pas de vérité en lui. Et quand il va agir aussi, bien sûr, avec le mensonge. Mais la Bible dit aussi qu'il est rusé. Dans Genèse chapitre 3, vous vous souvenez, lorsque pour Adam et Ève, lorsque le diable se présente sous la forme du serpent, eh bien, nous lisons ceci au chapitre 3. Nous lisons que le serpent était le plus rusé, d'accord, de tous les animaux. Il est capable d'utiliser des choses pour tromper. C'est un trompeur. Il est un menteur, mais il est aussi un trompeur. Il va chercher à égarer les gens. Et l'apôtre Paul souligne cela. Il a même à un moment donné une crainte pour l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, où il dit ceci. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 11, et au verset 3, il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, encore une fois, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il dit, Satan agit par ruse à l'égard d'Ève. Je crains qu'il n'agisse de la même manière à votre cas. Parce qu'il est rusé. Et quand il demande de prendre toutes les armes de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6, afin de tenir ferme, il parle qu'on doit prendre les armes pour lutter contre quoi ? Contre les ruses du diable. C'est encore la même chose qu'il dit ici. Donc, il est rusé. Et puis, il est invisible. Hein ? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Ça veut dire contre des gens qui sont comme nous, on va les voir. Hein. C'est plus facile de lutter contre un ennemi que l'on voit, n'est-ce pas? Mais il est invisible, il est esprit. Il est esprit. Et c'est des il dit qu'on a à lutter contre des autorités dans les lieux célestes, etc. Et un autre trait de sa nature, c'est qu'il est séducteur. Pas séducteur, comme on entend, ouais, séducteur, quelqu'un, il est beau, il est séduit, etc. Non, mais celui qui va chercher à aveugler de façon à tromper. Paul dit, de même que, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, il dit, de même que le serpent séduisit Ève. Quand Dieu va voir Ève dans le jardin, vous vous rappelez, Dieu voit Adam, et puis Adam dit, ben, c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu va voir Ève, et puis Ève dit, le serpent m'a séduit. Et une des manières d'agir du diable, c'est de séduire. Lorsque Ève a péché, elle a mangé le fruit, elle ne l'a pas fait en se disant, je sais que la vérité, il ne faut pas le manger, que ce que le diable dit est faux, mais je le fais quand même. Ce n'est pas comme ça qu'elle a été. La Bible dit qu'elle a été séduite, c'est-à-dire qu'elle a été aveuglée. Elle a cru vraiment que la vérité se trouvait du côté de ce qu'a dit le diable. C'est ça, ça que ça veut dire séduire. Hein. Séduit, quand on est séduit, on croit dur comme fer que la vérité, elle est là. Et elle est dans son être, elle pense suivre ce qui est vrai. Et elle a été aveuglée, elle a été trompée. C'est ça que ça veut dire. Quand on est séduit, c'est qu'on est trompé. Et le diable agit comme ça encore aujourd'hui avec nous. Nous prenons le chemin et nous sommes conscients de notre... Enfin, certains, nous sommes convaincus dans notre être intérieur que c'est la voie qu'il doit suivre, que je dois suivre. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme. Quand on prend cette voie-là, on ne pense pas, je la prends, mais je sais que c'est une voie de péché. Non, souvent on la prend parce qu'on est convaincu que c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais on a été séduit. On a été aveuglé. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Mais on a quand même été séduit. Il faut bien comprendre comment ça marche, hein, cette manière de faire du diable. Il va faire tout pour faire croire que c'est ça la vérité, afin qu'on puisse aller dans ce chemin-là. Et Jésus disait qu'il viendra un temps où il y aura des gens qui vont faire des miracles, mais à un point tel que s'il était possible de pervertir les élus, seraient pervertis. Pour donner le niveau de fiabilité, hein, ou de véracité qui pourrait paraître dans ces miracles qui seraient faits. C'est-à-dire que même un élu aurait, s'il n'était pas gardé par Christ, il aurait pu être trompé par cela. Vous voyez ? Et donc c'est très important de considérer, et Pierre dit ici que le diable c'est votre adversaire. C'est le diable, d'accord, d'avoir une idée sur cette nature de Satan. Mais il parle aussi de son activité. Il dit qu'est-ce qu'il fait ? Il rôde comme un lion rugissant. Et rôder, c'est se promener partout, sur toute la surface de la terre. Vous vous rappelez ce qu'on a lu dans Job ? D'où viens-tu ? Dit Dieu à Satan. Qu'est-ce qu'il dit ? De parcourir la terre et de m'y promener. Pourquoi faire, à votre avis ? Pour observer la beauté de la nature de Dieu ? Pas du tout. Pas du tout. Hein. L'apôtre Pierre nous dit qu'il fait cela et qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais il se promène partout. Il est dans une activité incessante. Il ne faut pas croire que le diable a un grand trône. Il est assis dessus, avec ses deux mains posées sur des montants, avec des bagues à chaque doigt, c'est pas, hein, comme on voit souvent dans les choses. Et puis, qu'il envoie son armée de démons qui œuvrent et puis qui reviennent. Non, la Bible dit qu'il est profondément actif. Il n'est pas dit que ces démons... Il rôde, certes, il a des démons qu'il a emmené un tiers, hein, des anges avec lui. Il a ces démons qui le suivent et qui accomplissent sa volonté. Mais lui-même, il est très actif. Et il rôde et il se promène. Il cherche toutes les opportunités. C'est ce que ça veut dire, le mot rôder veut dire. Il cherche toutes les opportunités pour pouvoir accomplir son dessein. Il les cherche toutes. Tous les moyens, tous les lieux. Alors bien sûr, le diable n'est pas, il est partout, mais il n'est pas omniprésent comme Dieu. Il ne peut pas être partout à la fois. Dieu seul est omniprésent. Et quelqu'un disait, quoi, c'est Pierre Jean qui dit ça, il dit, il n'est pas omniprésent, et il est partout. Ça veut dire qu'il est là, et il peut être l'instant d'après, à l'autre bout du monde. Je ne sais pas quel moyen de transport il utilise, quel avion, quel missile, quel truc, mais ce que la Bible souligne ici, c'est que il est dans une grande activité et quand Dieu lui pose la question, il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de parcourir la terre, c'est ce qu'il dit à Dieu. Donc il ne faut pas croire qu'il est là et puis on l'a figé là et puis pendant qu'on l'a figé là, ça y est, là-bas. Non, il peut être là, pas en même temps là-bas, mais il peut rapidement être là-bas et puis là, en train de chercher qui il va dévorer. Et donc il est dans une activité sans fin. Il rôde. Il n'y a pas de sphère de la vie où le diable ne puisse pas entrer. Il n'y a pas de lieu où il ne puisse pas aller. Même au ciel, il y va. La Bible dit qu'il se présente devant Dieu, dans la présence de Dieu. Il a accès devant Dieu. Il étend partout et tout le temps son activité. Et quand on lit la Bible, on voit qu'il était présent dans le jardin d'Éden. Et vous lisez toute la Bible, vous trouvez de ses actions, sa présence, jusque dans l'Apocalypse. Il est dans l'Église. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire, bah, venez à l'Église, le diable n'y rentre pas. Pensez bien que s'il peut aller au ciel, il peut aller à l'Église. Parfois, il y rentre, malheureusement, avec nous. Mais il y rentre. Il était dans l'église primitive, n'est-ce pas? Lorsque Pierre dit à Ananias et Saphira, « Comment Satan a-t-il pu entrer dans votre cœur au point que vous mentiez ?» Il dit que le diable est rentré avec. Ils sont rentrés avec. Il rentre dans l'église. Il est partout. La Bible dit qu'il rôde, qu'il cherche. D'accord? Et le mot « chercher » ici, c'est « chercher » avec l'objectif d'obtenir un résultat. Ce n'est pas juste que moi, je cherche un truc, un stylo dans le tiroir à la maison. Hein? Je dis, bon, cher stylo. Ma femme me dit, bon, regarde dans le tiroir, tu vas en trouver un. J'ouvre le tiroir et puis je fais vroum. Et puis je dis, non, il n'y en a pas. Et puis elle dit, mais si, j'ai dit non. Et puis après, elle vient, elle pousse deux papiers, puis il y avait effectivement un stylo dans le tiroir. Je n'ai pas cherché. J'ai juste regardé comme ça. Mais lui, quand il cherche jusqu'à ce qu'il trouve. Et Pierre dit qu'il cherche à dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. L'image du lion rugissant, c'est une image qu'on trouve dans l'Ancien Testament, hein, dans le psaume 22, où il est question, c'est le psaume messianique, hein, où il est question du Messie, il parle de ces lions, hein, psaume 22, verset 14. Ils ouvrent contre moi leur gueule semblable au lion qui déchire et qui rugit. Hein. C'est l'image qu'on trouve dans psaume 22, verset 14, concernant ceux qui attaquent, ceux qui sont contre le Messie, contre le Seigneur Jésus. On aime bien, n'est-ce pas, regarder le lion derrière le grillage du zoo, quand il a déjà avalé plusieurs kilos de viande et qu'il est en train de digérer. Okay. Mais si on nous disait qu'il y a dans la rue un lion qui s'est échappé, mais vraiment de la réserve, hein. Et puis, ça fait une semaine qu'il n'a pas mangé. Est-ce que vous sortiriez la rue de chez vous, là, hein? Tranquillement, oui, bon, hein? D'accord? Je crains rien, c'est un lion, c'est un animal. Dieu nous a donné la domination sur les animaux, ok? Hein? On ne va pas dire comme ça, n'est-ce pas? On va faire attention, n'est-ce pas? Et c'est ce que Pierre dit ici. Il dit, attention, votre adversaire, le diable, rôde, il y a un lion dans la rue, là. Il rôde comme un lion rugissant. Il est autour de votre vie. Il rôde, il rôde, il rôde, il cherche à vous dévorer. C'est ainsi qu'il faut comprendre ici ce que Pierre utilise comme image. Et certainement, Pierre a en tête les textes de l'Ancien Testament qui parlent du lion rugissant, mais il a aussi en tête, il vivait à l'époque romaine ici, de la persécution qu'avaient subi les Romains, qu'avaient fait subir les Romains aux chrétiens en les jetant au lion. Hein, en les jetant au lion, ici. Et donc il dit, soyez vigilants. Le diable, il n'y a pas de territoire de la vie du chrétien dans lequel il ne puisse s'immiscer. Il rentre dans les couples. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 7, vous vous rappelez, qui parle du mariage, il dit à l'homme et à la femme, attention, vous devez vous séparer d'un commun accord pour vaquer à la prière. Mais une fois que c'est fait, vous revenez ensemble. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? De peur que le diable ne vous... Alors, je vais les lire comment il le dit exactement. Il dit, 1 Corinthiens 7, verset 5, il dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps pour vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Il dit, Satan utilise tout. Il va utiliser le couple, il va utiliser même le fait que le couple se sépare un temps pour vaquer à la prière. Et à l'époque, certainement, ils disaient, bon, il y avait des soucis concernant les relations intimes entre le mari et sa femme, etc. Et Paul, bon, il pose des questions à Paul, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il leur dit, non, mais c'est important que vous reveniez ensemble, que l'homme et la femme entretiennent des relations intimes, c'est comme ça que Dieu veut les choses. Et il dit, si vous ne le faites pas, le diable va utiliser ça pour vous détruire. Le diable est à l'affût de la responsabilité qu'on peut donner à un jeune chrétien. 1 Timothée 3, verset 6, 8, il dit, quand on choisit des anciens, on dit qu'il ne soit pas un jeune converti, de peur quoi, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Mais même là, il est en train de surveiller, attends, à qui on va donner quelque chose? Et puis si l'Église ne fait pas attention, il s'immisce et il renverse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pour ça que la Bible donne... Attention, il faut être attentif. Il ne faut pas être trop pressé de faire les choses. L'apôtre Paul disait que Timothée a été éprouvé avec lui. Hein, et il disait même en 1 Timothée 3 qu'on les éprouve et qu'ensuite on confie quelque chose. Parfois on fait l'inverse. On confie et puis ça sert d'épreuve et puis après c'est compliqué. Le diable il est rentré et voilà. Et on se trouve les pieds et les mains liés. Dans 1 Thessaloniciens 2, on voit que le diable s'est opposé même à un projet de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il voulait faire quelque chose, mais Satan nous en a empêchés. Il peut s'opposer au projet même d'un apôtre. Et puis, il peut utiliser les émotions humaines comme appui aussi. L'apôtre Paul dit en Éphésiens, si vous vous mettez en colère, la colère est une émotion humaine, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas, quoi, accès à qui? Au diable. Quand on se met en colère, on dit, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer, etc. Et puis on en veut aux gens. Il dit, attention, vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable. Il utilise même. Donc il peut même susciter la colère de manière à affaiblir la garde et de pouvoir pénétrer dans cette porte-là. Donc ce n'est pas la peine de dire, moi c'est comme ça que je suis, non. Pierre dit, soyez vigilants, votre colère là, ça peut, c'est un rugissement du diable par lequel il essaye de vous dévorer. Le refus de pardonner. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 2 et au verset, je crois que c'est 2 Corinthiens 2, je pense, je ne me trompe pas, 2 Corinthiens chapitre 2 et au verset 10, il dit, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonnerai. Et ce que j'ai pardonné quelque chose. » Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Afin de quoi? Il dit qu'il a pardonné. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il dit, il a des projets. Et il ne faut pas oublier qu'il utilise le refus que l'on a de se pardonner les uns les autres dans les relations comme un tremplin pour accomplir ses propres desseins. Alors Paul dit, moi j'ai pardonné parce qu'on ne veut pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et on pourrait multiplier les exemples qu'il y a dans la Bible à ce propos. Il utilise même les apôtres. Rappelez-vous de Pierre. Lorsque Pierre dit à Jésus, rempli de bonnes intentions, il dit, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus dit, voilà, il faut que j'aille à Jérusalem. Pierre dit, non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais ne plaise à Dieu, ça ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont des paroles humaines. C'est-à-dire que le diable est capable de s'insinuer, d'inspirer une attitude. C'est une bonne intention, on pourrait dire ici. Hein. Mais il s'est insinué dans cette bonne intention pour distiller à l'oreille de Jésus quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, qui est contraire à ce qu'il était venu accomplir. Mais Jésus, qui est plein de sagesse, discerne derrière cela le diable. Nous ne pouvons pas faire ça, c'est moi. Hein. Parce que, heureusement, parfois. Parce que si chaque fois qu'on n'est pas content, quelqu'un dit quelque chose, on dira « Regarde de moi, Satan », je pense qu'on aurait de gros problèmes, n'est-ce pas? Mais, cela ne veut pas dire pour autant que lorsque nous disons des choses, ce n'est pas inspiré par le diable derrière. Et nous avons certainement déjà dit des choses, moi le premier, qui soient inspirées par le diable derrière, parce qu'on n'a pas été suffisamment vigilants. Avec une bonne intention peut-être, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Et puis ça peut causer des problèmes. Et c'est pour ça que Pierre dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ici. Donc, il est partout, il a une activité permanente. Et puis, il a un but particulier. Ça, je voulais souligner. Pierre dit ici qu'il cherche à vous dévorer. On a lu dans 2 Corinthiens qu'il a un dessein. Nous ne voulons pas donner l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas son dessein. Et son but, c'est quoi? C'est de dévorer, de détruire. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que ça veut dire que ce qu'il veut, c'est la mort du croyant? Non. Non. Quand Satan va voir Dieu et puis il dit, Dieu lui, as-tu vu mon serviteur Job? Comment il est intègre? Alors qu'est-ce que Satan dit? Ben c'est normal, tu lui as donné toutes sortes de choses, etc., etc. Et puis est-ce qu'il dit, mais tue-le et tu verras. Il ne dit pas ça. Il dit, touche-le. Et puis, qu'est-ce qu'il dit comme que Job fera? Et tu verras s'il ne te maudit pas. Par deux fois, il le dit. Et à un moment donné, la femme de Job, Satan parle à travers la femme de Job. Il dit, bon, s'il ne peut pas y aller directement, on va essayer d'utiliser sa femme. Et qu'est-ce que la femme dit? Maudit Dieu et meurt. Donc, quel est le but qui est recherché ici? C'est qu'il maudisse Dieu et qu'il meure, pas qu'il meure. S'il meurt sans maudire Dieu, le diable n'a pas atteint son but. Donc, ce que le diable cherche, ce n'est pas la mort du croyant, mais c'est qu'il maudisse Dieu, qu'il se détourne de la foi. Vous vous souvenez? Jésus avait dit à Pierre, Satan vous a, quoi? Réclamé. Satan a réclamé Job. Il continue, il est allé vers Jésus, il a réclamé les disciples. Pour quoi faire? Pour les secouer, comme on secoue le blé. Il dit, voilà, laisse-moi Pierre et les autres, je vais te les secouer à un point, tu vas voir comment ils vont, leur foi va être agitée, et puis ils vont se détourner de toi. Et Jésus le dit, il dit, Satan vous a réclamé, dans Luc chapitre 22, 30 et 31, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, mais j'ai prié pour toi afin que tu ne meures point. Non, qu'est-ce qu'il dit? Afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que ce que le diable a pour but ici, c'est la défaillance de la foi. C'est la perte de confiance en Jésus-Christ. C'est que ces hommes que Jésus a ramenés à lui, qu'ils puissent se détourner de la foi en Jésus-Christ. Et il agit toujours et toujours ainsi. Paul, à un moment donné, dans l'épître de Timothée, il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4, verset 17, vous vous rappelez cela, il dit, il parle, il a été en prison à Rome, peu de temps avant qu'il ne soit, peut-être, enfin, je ne sais pas combien de temps exactement, mais qu'il ne soit exécuté, il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 4 et au verset 17, il dit, verset 16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que les païens l'entendent. Et puis il ajoute ceci, qui est une image qui ressemble à ce que Pierre dit. Il dit, j'ai été délivré de la gueule du lion. Est-ce qu'il parle pour dire qu'il a été délivré de la mort ici? Non. C'est quoi la gueule du lion? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Mais comment on entre dans son royaume céleste? Par la mort. Donc ce n'est pas de la mort qu'il parle ici. Il parle du fait que, si vous regardez un tout petit peu plus haut, qu'il y a un homme qui s'appelait Alexandre, n'est-ce pas, et qui a été, donc au verset 14, il dit, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon son œuvre. Garde-toi aussi de lui. » Car il s'oppose fermement à mes paroles. Il dit que Satan a utilisé des hommes qui s'opposent à la prédication de la parole de Paul, qui font du mal à Paul, dans le but de le faire défaillir de sa mission, que l'évangile ne soit pas prêché. Il a même fait en sorte qu'il soit abandonné. Regardez, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Il dit même que cela ne leur soit pas imputé. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie et que tous les païens l'entendent. Le diable ne veut pas que Christ soit prêché, que l'évangile soit entendu. Et il fera tout. Il rôde comme un lion rugissant pour dévorer le prédicateur Paul. Même s'il fallait pour cela utiliser un Alexandre qui était dans l'église, ou qu'il fallait utiliser des gens qui s'en vont d'autour de lui, qui le laisse tout seul face aux Romains. Mais il dit, j'étais pas seul, Dieu m'a délivré. Et il continuera à me délivrer de la gueule du lion. Vous voyez, la gueule du lion, c'est celle-là qui cherche à éloigner le chrétien de la foi, de la confiance en Jésus-Christ. Le but ultime de Satan, c'est d'empêcher de croire et de détourner de la foi. Et c'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, je crains que vos pensées ne se corrompent. De même que le serpent a séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la foi simple en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et donc c'est ce que Pierre souligne. Il dit, attention, chers frères et sœurs, vous avez un adversaire. Pas se balader comme si de rien n'était. Il y a un lion dans la rue qui n'a pas mangé depuis des mois. Il a faim. Il cherche à dévorer. Alors il ne cherche pas à vous dévorer physiquement, il cherche à vous dévorer spirituellement. Il cherche à vous faire déchoir de là où vous êtes. De ne plus vous exposer à la parole de l'évangile, de l'entendre de moins. Satan n'a que faire si nous entrons dans une église que nous chantons. Ce n'est pas un problème pour lui. S'il peut saper notre confiance en Jésus-Christ et notre obéissance à la parole de Dieu. Il ne dit pas qu'il est fait que nous ne chantions pas. Il peut s'arranger pour que nous ne chantions pas afin que la foi défaille. Son but, c'est toujours de dévorer et de détruire, d'arriver jusqu'à l'ultime limite. D'accord ? Il ne va jamais en dessous. Et quand Dieu dit au diable, voici Job, touche-le, mais épargne sa vie, la seule chose que Satan a épargné, c'est la vie. Hein. Il n'avait que la peau sur les os. Même Job a souhaité mourir, tant il était mal. C'est pour vous dire que le diable, quand Dieu lui donne, il va jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est réconfortant de savoir qu'il ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de faire. Que dans toutes ces choses, Dieu demeure souverain. Et puis je termine avec ce deuxième point ici. Donc, les réalités concernant le diable. Mais deuxièmement, ici, que l'attitude que doit avoir le chrétien face à cela. Pierre ne dit pas, alors maintenant, il faut chasser les démons. Il faut courir après. Il faut reconquérir des territoires. Il faut mener la guerre. Il faut renverser les... C'est pas ce qu'il dit. Certes, il dit qu'il faut chasser le diable. Il le dit, hein. Parce que dans... Enfin, il dit pas directement, mais dans Jacques, il est dit résister au diable et il fuira. Donc on chasse. Mais comment est-ce qu'on le chasse? En étant sobre, en veillant et en résistant. C'est ça qu'il dit ici. Voilà ce que l'Écriture nous donne pour faire face à notre adversaire. Soyez sobre. Le terme sobre traduit le fait d'être dans un calme, être concentré en esprit, pas avoir un esprit intoxiqué. Si notre esprit reçoit beaucoup de choses du monde, beaucoup de ragots par-ci, de ragots par-là, mais elle n'est pas centrée sur la vérité de la parole de Dieu, notre esprit sera intoxiqué. Et nous ne pourrons pas être sobres et résister au diable. Sobre, c'est avoir un esprit sain, avoir du bon sens, exercer un contrôle sur soi-même, s'estimer d'une manière modérée, sobrement, faire fléchir nos propres passion. Et donc l'idée semble d'être un esprit équilibré qui ne s'emporte pas, qui ne se laisse pas conduire par les émotions et ne se laisse pas intoxiquer. Un esprit qui évalue correctement les choses avec sang-froid, qui évalue bibliquement les choses. Parfois, certains sont tellement préoccupés par leur souffrance, par leur situation, qu'ils en viennent à oublier que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est ce que le diable recherche. Qu'ils en viennent à perdre confiance en Dieu. Et c'est ce que le diable recherche. Ils interprètent mal les promesses de Dieu parce que leur esprit n'est pas clair. Ils ne gardent pas leur bon sens. Et puis Pierre dit aussi, veillez, il faut être vigilant. Ça veut dire qu'il faut faire attention, rester sur ses gardes, ne pas baisser ses gardes. C'est comme si on vous dit, il y a un lion dans la rue, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez comme ça, hop, 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 etc. S'il est là... Vous faites attention, vous n'allez pas mettre les pieds dehors sans avoir, vous êtes rassuré que voilà, tout le périmètre il est en sécurité et que le lion est peut-être très très loin. C'est cette image qu'il faut avoir à l'esprit. Et le mal de certains chrétiens, le mal que nous avons souvent, que nous nous exposons avec négligence et que nous donnons accès au diable, soit par notre colère, soit par notre refus de pardonner, soit parce que nous n'exerçons pas la discipline, ce qui est arrivé à l'église de Corinthe. Il y avait de la division dans l'église de Corinthe. Le diable s'était immiscé. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas appliqué la discipline à quelqu'un à qui il fallait appliquer la discipline. Parce qu'on ne fait pas les choses comme Dieu demande de les faire. Et nous ne sommes pas suffisamment vigilants. Parfois, nous parlons légèrement. Et nous devons toujours être conscients que dans tout ce que nous allons faire, les bonnes choses comme les mauvaises choses, le diable a le pouvoir de s'immiscer et de chercher comment il peut renverser les choses pour pouvoir nous renverser. Ça, c'est important de le savoir. Il ne suffit pas de croire qu'on est un chrétien et puis c'est bon. Non, il faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention à ce que nous véhiculons, à ce que nous pensons des autres. Et à chaque fois, demander au Seigneur, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est vrai? Il faut être vigilant sur nous-mêmes. Nous sommes un vecteur que le diable peut utiliser pour la division. Il faut le savoir. Alors bien sûr, il ne faut pas se balader en ayant comme ça peur. Mais il faut être conscient de cela pour faire attention. Si on n'est pas conscient, on ne fait pas attention. Et c'est ce que Pierre dit ici. Il dit, attention, il y a un adversaire. Maintenant, soyez vigilants. Et puis, il dit, résistez avec une foi ferme. Il ne dit pas, allez affronter, mais résistez. Résister, c'est un peu défensif. Hein. Ça veut dire qu'on prend une position. Et puis il dit avec une foi ferme, ça veut dire qu'on maintient cette position. Équilibrée. On est ferme sur les appuis et on résiste. C'est la même chose que dit Jacques dans Jacques 4, 7. Il dit résister au diable. Il ne dit pas aller l'affronter, il dit résister avec une foi ferme. Et Paul souligne cette même vérité dans Éphésiens 6. Il dit que la stratégie de Dieu dans le combat que l'on doit mener, combat spirituel, est une stratégie défensive. Il n'est pas question d'aller attaquer qui que ce soit, ni de se lancer dans un affrontement direct avec quelques démons, quelques puissances invisibles que ce soit, mais d'adopter une position de fermeté et de résistance. Écoutez ce qu'il dit dans Éphésiens 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme, la même chose, contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. » On trouve la même pensée que Pierre ici. « Dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenez donc ferme. Voilà ce qu'il dit. Tenez donc ferme dans la foi. Laissez-vous imprégner par la parole de Dieu. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Laissez-vous enseigner. Soyez vigilants. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer dans votre propre pensée. S'il y a un problème, repentez-vous. Repentez-vous. J'aime beaucoup lire ce verset. Je le lis souvent, mais c'est important. L'apôtre Paul dit ici dans 2 Timothée 2, 22 qu'il faut prier même pour que il dit, verset 24, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, mais il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. » Parfois, il nous manque toutes ces choses-là. Et puis, il ajoute ceci. « Il doit redresser avec douceur les adversaires, la douceur. » Parfois, on a des choses à dire. Mais comment on le dit ? C'est très important. Parfois, on peut avoir une vérité à dire, mais avec la manière avec laquelle on le dit, c'est Satan qui agit. Alors que ce qu'on dit, c'est une vérité. Et qu'est-ce qui va triompher? C'est pas ce qu'on dit, c'est la manière avec laquelle on dit les choses. Ça va créer la division et ça va faire éclater. Alors que je disais une chose qui était vraie. Donc il ne suffit pas simplement de dire la vérité. Il dit ici qu'il redresse, il ne suffit pas simplement de redresser, mais qu'il le fasse avec la bonne attitude, avec douceur. Et dans quel but? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Ce dont nous avons besoin souvent, c'est de la repentance. Lorsque Dieu nous montre quelque chose. Pourquoi ? Parce que la repentance permet d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce que dit le texte. La repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de la vérité permet de revenir au bon sens. D'accord ? L'esprit n'était pas clair, il n'était pas sobre. Vous voyez ? Mais pour que l'esprit soit sobre, il faut se repentir. Et une fois qu'on se repentit, la vérité devient claire à nos yeux. Une fois que la vérité devient claire à nos yeux, notre bon sens revient. Et une fois que notre bon sens revient, qu'est-ce que dit Pierre, Paul ici? On peut, verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges de qui? Du diable. On était dans les pièges du diable. Mais comment est-ce qu'on sort d'après ce texte des pièges du diable? La repentance. C'est pas en disant j'ai raison et l'autre a tort. C'est pas en disant voilà ce que je... Non, c'est en reconnaissant dans l'humilité, qu'on a besoin de se repentir. Qu'on a besoin d'arriver à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le diable, son piège, c'est de nous aveugler concernant la vérité. Et donc, on se repent, on parvient à la vérité, on parvient au bon sens, et on peut ainsi se dégager des pièges du diable qui s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté. Voilà ce que Dieu, voilà comment on peut résister. Résister, c'est se repentir. Ne pas dire j'ai raison. Mais quand Dieu nous montre que nous avons tort, mais c'est de nous repentir, de demander pardon. C'est de ne pas demeurer dans notre colère. Donc, chers frères et sœurs, je dis ceci. Pierre donne aussi un encouragement, mais nous n'allons pas prendre le temps de le voir. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul non plus dans cette situation. Mais je conclue en disant ceci. Ce dont le chrétien a besoin dans les souffrances, c'est de faire attention à ne pas tomber dans les pièges tendus par le diable. C'est-à-dire dans toutes les situations que nous vivons, il y a un risque d'être piégé. Il y a un risque d'être piégé par le diable. C'est ce que Pierre dit ici. Que ce soit la souffrance, que ce soit la prospérité, que ce soit la pauvreté, que ce soit les conflits, que ce soit une difficulté relationnelle, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail, il y a toujours, pour le chrétien, un piège qui est tendu par Satan pour le dévorer. Et ça, il faut être conscient de ça. Et on en sort, comme on vient de lire en 2 Timothée 2, 22. Et je voudrais ajouter aussi ceci. Si les chrétiens sont la cible du diable, les non-chrétiens le sont aussi. Il ne faut pas croire que les non-chrétiens sont épargnés. Parfois, on dit, bah, ils sont déjà du côté du diable, donc il n'a rien à faire. Absolument pas. Il va tout faire pour qu'ils ne parviennent pas non plus à la connaissance de la vérité. Et la Bible le souligne aussi. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu qui est l'image de Dieu. Si vous ne vous tournez pas vers Christ, c'est parce que le diable met tout ce qui est en son pouvoir pour vous aveugler, afin de vous empêcher de saisir la vérité de l'évangile. Jésus dit qu'il y a des terrains sous lesquels la semence tombe, et qu'est-ce qui c'est qui vient pour le prendre? C'est le diable qui vient pour enlever tout de suite, pour que cette parole ne pénètre pas dans votre cœur. Et donc, sachez que vous êtes aussi en danger d'être dévoré et d'être détruit et de terminer loin de Dieu dans le feu qui ne s'éteint point. Et donc, le message de Christ, c'est qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est en lui qu'il faut mettre votre confiance. Et puis je termine avec ce verset. Hébreux 2, 14 dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et je veux faire le lien avec la table du Seigneur à laquelle on va assister maintenant, participer. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, parce que nous sommes faits de chair et d'os et de sang, eh bien Jésus a également participé lui-même. Il a pris un corps de chair et de sang. Pour quelle raison l'a-t-il fait? L'Épître aux Hébreux dit ceci. Afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. L'incarnation de Christ, ici, ça a été pour vaincre la mort par sa propre mort. Laquelle mort Satan tenait pour nous effrayer? Il dit, si tu continues à suivre Christ, tu vas mourir, etc. Mais c'est pas la mort qui l'intéresse, c'est de nous faire nous détourner. Comme ces chrétiens du 1er siècle, comme Polycarpe, à qui on a dit au début du siècle, n'est-ce pas, dis juste César est Seigneur et tu auras la vie sauve. Il a dit, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas renier celui qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Dis-je, on va te mettre aux bêtes féroces si tu ne renies pas ta foi. Et il a dit, appelez les bêtes. On a essayé de lui faire peur avec la mort. Renie Christ, parce que tu vas mourir. Ils sont allés chercher des bêtes, mais il n'y avait pas de bêtes. Ils ont dit, alors puisque tu n'as pas peur des bêtes, on va te mettre au feu. Il a dit, je ne crains pas le feu qui brûle une heure et puis qui s'éteint dans peu de temps. Il y a un feu plus terrible qui brûle éternellement. Et quiconque n'est pas en Jésus-Christ, c'est là qu'il terminera. Il n'a pas peur du feu qui tue le corps. Il a dit, le feu qu'il faut craindre, c'est celui qui brûle éternellement sans s'éteindre et dans lequel Dieu enverra ceux qui n'auront pas voulu recevoir Jésus-Christ, qui seront demeurés sous l'emprise du diable dans la crainte de la mort. Le Fils de Dieu est venu pour vaincre les œuvres du diable. Il s'est incarné, il a pris un corps de chair, il a offert son corps, son sang, pour que par sa mort soit rendu à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, Il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude.
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est pas celui d'un autre. C'est pas les autres chrétiens notre adversaire, c'est le diable, votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont infligées à vos frères partout dans le monde. Prions.
Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta parole et pour cet avertissement qu'il nous donne, cette exhortation pleine de force, mais combien importante pour nous ce matin. Et je te prie que tu nous aides. Oui, que tu nous aides à demeurer fermes dans la foi. Que tu nous aides à être vigilants sur nous-mêmes, pas inconsidérés, sachant qu'il y a toujours un risque dans nos relations, que le diable s'insinue pour nous tendre des pièges. Seigneur, nous voulons agir vis-à-vis des forces du mal, comme ta parole nous le commande, de manière biblique, en nous appuyant sur toi, en regardant à toi, en remettant notre vie à toi. Seigneur, en nous aimant les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres, en ne laissant pas la colère nous emporter. Seigneur, aide-nous par ton esprit à mettre toutes ces choses en pratique. Seigneur, afin de fermer tous ces accès et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.